Gloire à toi. Je vous prie de vous rasseoir tout en demeurant dans cette attitude de prière. Nous voulons nous préparer à recevoir sa parole. Nous lui avons apporté notre louange, notre adoration. Nous lui avons exprimé nos sentiments. Le moment arrive maintenant où nous devons nous taire et nous préparer à recevoir par et au travers de sa parole ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Comme nous venons de le chanter Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Notre plus grand besoin Seigneur, le besoin le plus noble, le plus grand qui soit, dans lequel se trouve tout homme, quel qu'il soit, est celui Seigneur de te connaître, de jouir avec toi d'une communion vivante et profonde. Bénissons ton nom pour ce privilège que nous avons de t'avoir rencontré un jour dans notre vie. Seigneur, dans notre perdition, tu nous as attirés à toi. Tu nous as donné l'occasion de nous repentir, ô Seigneur, de reconnaître notre état de culpabilité par rapport à toi, envers toi. Et après nous être repentis, Seigneur, tu nous as donné la force de pouvoir t'ouvrir la porte de notre cœur. T'inviter à venir dans nos vies. Et nous t'avons reçu comme sauveur et Seigneur, et depuis, Seigneur, notre vie, eh bien, est passée de la mort à la vie. Notre vie, Seigneur, est devenue désormais le lieu où tu habites, ton temple à toi. Merci pour tout. Maintenant que nous sommes à toi, maintenant que nous t'appartenons, Seigneur, nous te demandons de nous aider, ô Dieu, à apprendre à t'abandonner toutes choses. Non seulement t'abandonner tout ce que nous avons, tout ce que nous avons reçu de toi, mais que tu nous aides à nous abandonner nous-mêmes à toi, car nous ne pouvons assumer, accomplir, ô Dieu, notre raison d'être sur cette terre, que dans la mesure où nous nous abandonnons à toi, et où nous abandonnons entre tes mains ce que tu nous as donné, ce que nous avons reçu de toi. Merci pour tout, Maître. Nous voulons ce matin que tu puisses déposer dans nos cœurs ta parole. Nous voulons que tu revêtes ton serviteur, Seigneur, de ta puissance, qu'il puisse parler sous ton inspiration, et que cette parole puisse trouver des cœurs disposés à l'accueillir, ô Dieu, et à réagir favorablement et positivement par rapport au Seigneur à ta parole. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli, ô Dieu, avec succès, l'œuvre pour laquelle tu l'auras envoyé au milieu de nous. Merci, Maître. Bénis et sanctifie ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons sans plus tarder nous tourner vers la parole de Dieu et nous allons continuer avec notre thème de la fois dernière, à savoir comment faire face aux différentes tempêtes, tous ces ouragans qui peuvent survenir dans notre vie alors que nous poursuivons notre marche vers l'éternité. Eh bien, nous allons relire le texte que nous avons déjà lu la fois dernière, à savoir Actes, livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous n'allons pas tout lire, tout le chapitre. Quelques versets qui puissent nous permettre de mieux comprendre comment nous pourrions faire face à la tempête, quelle que soit sa nature, quelle que soit son intensité. Nous sommes donc dans Actes, chapitre 27, nous allons lire les deux premiers versets, et puis ensuite, nous lirons à partir du verset 29 jusqu'au verset 25. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul, l'apôtre évidemment, et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Comme je l'ai souligné, comme certains d'entre vous le savent, Paul avait été arrêté et on avait cherché à le lapider parce qu'il avait annoncé, proclamé la parole de Dieu parmi les Juifs. Finalement, il va échapper à ce verdict, mais tout en restant prisonnier, il va faire appel donc à César, et comme il avait la citoyenneté romaine, donc il était tout à fait normal qu'il aille jusqu'à Rome pour y être jugé. Donc voilà ce qui explique sa présence dans ce navire. Monté sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons donc gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier, donc l'officier romain, se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phénix, port de Crète, tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraculon se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Clonda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceinturer le navire, et dans la crainte de chouer sur la Syrte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison, et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, et je rends un culte où je sers, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Amen. » Gloire au Seigneur, le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu que je sers. Comment faire face aux tempêtes de la vie? Comment résister lorsque nous avons affaire à un ouragan de forte intensité, à des vents de plus en plus impétueux dans notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs, lorsque il arrivera ou il arrive, ou qu'il est en train d'arriver, que la barque conjugale est de plus en plus secouée par toutes sortes de tempêtes violentes, lorsque la barque familiale est de plus en plus ballottée par des houles de plus en plus dangereuses? Qu'est-ce que nous devons faire, mes amis, lorsque tous ces vents impétueux et violents soufflent, cherchant par tous les moyens à nous emporter? Eh bien, la réponse se trouve dans l'attitude de Paul. La réponse se trouve dans la vie de cet homme. Grâce à cet homme, eh bien, tous ceux qui étaient à bord de ce navire en route vers Rome vont avoir la vie sauve. La tempête, les ouragans sont une réalité. Comme je l'ai souligné en introduction à ce message la fois dernière, c'est qu'il y a, et vous le savez, et vous l'avez certainement observé, il y a sur cette terre des régions géographiques qui, à cause de leur position sur cette terre et en certaines périodes de l'année, sont constamment secouées, sont constamment balayées par des vents violents, par des tempêtes de plus en plus destructrices, dont la plupart finissent par devenir, mes amis, des typhons, des ouragans qui détruisent tout sur leur passage. Et lorsque ces ouragans, eh bien, sont passés quelque part, ils ne laissent derrière eux que des dégâts matériels, ils ne laissent derrière eux que des récoltes détruites, ils laissent aussi, hélas, des victimes. Donc, toute cette tempête représente un véritable danger. Toute cette tornade, tous ces vents violents représentent un danger pour l'homme. Et nous l'avons vu que sur le plan spirituel, eh bien, il arrivera, il nous arrivera, ou qu'il nous arrive même déjà, de rencontrer toutes sortes de tempêtes, toutes sortes d'ouragans, de vents violents, qui se présenteront à nous sous forme d'épreuves, des épreuves de plus en plus difficiles à soutenir, sous forme de difficultés de tout genre, sous forme, mes amis, d'adversités et des tracas divers. Et lorsque ce vent, lorsque ces épreuves, lorsque cette souffrance, lorsque ces afflictions, lorsque ces tribulations nous arrivent, que devrions-nous faire, mes amis? Car que nous le voulions ou pas, et la parole de Dieu est claire par rapport à cela, tous ceux qui aimeraient vivre pieusement, tous ceux qui aimeraient vivre en accord avec le Seigneur, tous ceux qui aimeraient vivre sur cette terre en étant soumis à l'autorité du Seigneur, ceux-là connaîtront toutes sortes de difficultés, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations. Que l'ouragan souffle dans nos vies, cela, mes amis, ne devrait pas nous étonner. Nous ne devrions pas dire, oh, ça n'arrive qu'à nous, pas du tout. Nous sommes tous concernés. Tant que nous appartenons au Seigneur, tant que nous sommes à lui, eh bien, non seulement l'ennemi cherchera par tous les moyens à nous distraire, à nous éloigner de la volonté de Dieu, mais il arrivera aussi, comme nous l'avons vu, et comme ce n'est le cas dans ces récits, il nous arrivera de faire des choix irrationnels, de faire des choix en nous fondant sur notre sagesse, de faire des choix en nous appuyant sur les conseils des hommes, sur les conseils des experts, des technocrates, et malheureusement, en nous appuyant sur ces gens-là, eh bien, il arrivera ou il arrive déjà que nous rencontrions des tempêtes, conséquences de nos choix faits à partir de la sagesse et de l'intelligence humaine. Donc, nous devons être sages et savoir que lorsque la tempête se met à souffler, il est important que nous nous tournions vers le Seigneur pour essayer de voir comment faire pour essayer de nous en sortir. Car avec le Seigneur, il y a toujours, je dis bien, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il n'y a pas de problème qui soit insoluble aux yeux de notre Dieu. Tout est possible à celui à qui nous avons confié nos vies. Avec lui, par lui, au travers de lui, nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Donc, ces tempêtes peuvent arriver parce que c'est comme ça, l'ennemi fait tout pour nous distraire, ou parce que nous avons fait des mauvais choix. Ça a été le cas de ce navire. Si ce navire a été confronté, mes amis, à des vents de plus en plus violents, c'est tout simplement parce que l'autorité romaine, le centenier, celui qui avait la garde et la surveillance, non seulement des prisonniers qui étaient à bord de ce navire, mais lui aussi, à qui revenait le dernier mot, a préféré s'appuyer sur l'expertise du capitaine et du pilote, a préféré s'appuyer sur la connaissance que cet homme avait de la navigation maritime, la connaissance qu'il avait de la Méditerranée, plutôt que sur le conseil sage de Paul, conseil qui devait être certainement inspiré par le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui arrive souvent, mes amis. Nous faisons de choix à la hussarde, à la va-vite, sans tenir compte des conséquences qui pourraient advenir. Voyez-vous, chaque choix fait, chaque décision prise, c'est comme une semence qu'on jette dans la terre. Cette semence, avec le temps, ne produira que du fruit selon la nature et l'espèce de la semence. En semant les tomates, vous ne pourriez pas vous attendre à récolter des oignons. Oui ou non? Donc, si vous semez les oignons, vous ne pourriez récolter ou vous ne pouvez récolter que des oignons. Donc, nous devons faire très attention. Ces gens, hélas, se sont appuyés sur l'homme. L'homme avec sa connaissance et son expertise. L'homme avec son expérience. L'homme avec son discernement. Avec sa clairvoyance intellectuelle. L'homme avec sa puissance cérébrale. Résultat, eh bien, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Le navire, la cargaison. Et si l'équipage, ainsi que tous ceux qui étaient à bord, ont eu la vie sauve, c'est grâce à la présence de cet homme qui appartenait à Dieu et qui les servait de tout son cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils avaient pris, comme on dit en français, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, ils avaient pris des vessies pour des lanternes. Ils se sont trompés lourdement, avec des conséquences terribles et irréversibles. Combien d'entre nous, mes amis, se retrouvent dans une barque de plus en plus ballottée, ballottée par des vents, par la houle, de plus en plus dangereuse, tout simplement parce qu'ils avaient fait des choix inspirés par la sagesse de l'homme. Ils n'avaient pas tenu compte de Dieu. Voyez? Mais combien aussi se retrouvent dans une barque où ils n'ont pas le dernier mot? Mais peu importe. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous sommes avec Dieu, eh bien, il y aura toujours un moyen de s'en sortir. Gloire au Seigneur, alléluia. Ce que nous ne devons pas faire comme nous l'avons vu, c'est faire comme Julius, le centenier romain, qui s'est appuyé sur l'homme. Et ce que nous devons faire, eh bien, c'est que nous devons réagir comme Paul. Paul nous donne là un exemple. Paul nous montre une fois de plus, mes amis, que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque Dieu est pour nous, où que nous soyons, que ça soit dans une mer en furie, que ça soit dans une barque, mes amis, ballottée par toutes sortes de vents et d'ouragans de plus en plus destructeurs, tant que Dieu est avec nous, tant que Dieu est pour nous, il n'y a rien, absolument rien, qui pourra, mes amis, provoquer le naufrage de notre vie, de notre carrière ou de notre profession. C'est pourquoi je voudrais encourager tous ceux dont la barque conjugale est en train d'être secouée, mes amis, tous ceux dont la barque familiale, eh bien, a complètement perdu le nord et ne sait plus où aller, tiens bon, mon frère et ma sœur, celui qui est en toi est forcément aussi dans la barque, si tu lui fais confiance, tôt ou tard, il redressera la barque. Gloire au Seigneur. Paul, au milieu de ces gens apeurés, de ces gens qui venaient de perdre toute leur illusion, qui n'attendaient que la mort, voyez-vous, au milieu, dans ce navire, de plus en plus secoué, ils l'ont allégé en jetant la cargaison dans la mer. Ils ont essayé de la ceinturer, de ceinturer ce navire. Ils ont tout fait, mes amis, mais cela n'a pas résolu le problème. Voyez, ils vont tout perdre. Et là, dans ce navire, au milieu de ces gens en désespérance, de ces gens, eh bien, n'attendant que la mort, un homme va se mettre debout. Non pas en s'appuyant sur lui-même, mais plutôt en s'appuyant sur le Seigneur, en s'asseyant sur celui qui s'appelle fidèle et véritable. Pourquoi je souligne ce point? Eh bien, c'est parce que si Paul se retrouvait en route vers Rome, ce n'était pas simplement parce qu'il avait fait appel. Il avait fait appel à César. Si vous regardez dans la parole de Dieu, au chapitre 23, vous verrez que lorsque il y a eu cette émeute à Jérusalem, lorsque les gens, des juifs fanatiques, intégristes, ont tout fait pour qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés à mort, eh bien, une nuit, là à Jérusalem, Paul va dire, plutôt, le Seigneur va se révéler à Paul, il va lui dire ceci, hein, verset 23, chapitre 23, verset 11, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Alléluia. Il faut que tu rendes témoignage à Rome. Donc la présence de Paul, toutes ces circonstances-là, mes amis, ne sont pas arrivés de manière fortuite et accidentelle. Dieu, le Seigneur avait dit à Paul, tu iras me rendre témoignage à Rome. Mais seulement le Seigneur ne lui avait pas dit comment il allait y arriver. Peu importe la manière, mais si nous demeurons dans la volonté de Dieu, nous finirons par arriver au bon port. Alléluia. Paul s'est appuyé sur cette parole. Paul savait que celui qui lui a dit, tu iras me rendre témoignage à Rome, est celui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est celui, mes amis, qui dirige toutes choses. Avec lui, il n'y a pas de hasard. Quelle fidélité d'avoir un Dieu comme celui-là. Oui. Il lui avait dit, il a fallu attendre 2 ans, parce qu'il est resté 2 ans césarée. En attendant, eh bien, d'être amené à Rome pour pouvoir être jugé en tant que citoyen romain. Le Dieu à qui j'appartiens. Nous avons commencé à parler de cette confession, de cette parole d'encouragement, mais également de cette déclinaison que Paul fait de son identité, de celui à qui il appartient. Dieu à qui j'appartiens. J'aimerais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Appartenir avant de servir. Alléluia. Appartenir à Dieu avant de pouvoir le servir. Paul l'affirme clairement, avec certitude. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Ce Dieu-là a envoyé un ange pour me dire ceci, pour me dire cela. Le Dieu à qui j'appartiens. Appartenir à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? C'est être la propriété de Dieu. Alléluia. Être la propriété de Dieu, c'est avoir, mon frère et ma sœur, la signature divine sur notre âme. Appartenir à Dieu, eh bien, c'est être sa possession. C'est être son héritage. Si nous appartenons à Dieu, mes amis, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Car, après tout, tout appartient à notre Dieu, oui ou non? Que ce soit ce pays, que ce soit ce continent qu'est l'Afrique, que ce soit l'Europe, l'Amérique, bref, toute la terre lui appartient. Et dès lors que ce Dieu est avec nous, nous devrions apprendre à être en paix et à lui faire confiance. Le Seigneur s'était révélé à Paul sur la terre d'Israël. Mais c'est le même Dieu qui va l'accompagner jusqu'à Rome. Voyez-vous? Et qui va garder Paul à Rome. Car là, à Rome, si vous lisez la suite de ce récit, et la fin du livre des Actes, vous verrez qu'il est à Rome. Et là, à Rome, eh bien, il va jouir d'une liberté relative qu'il va mettre à profit pour annoncer le royaume de Dieu, pour proclamer l'évangile du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes sa propriété. Dieu nous a rachetés par la vie du Christ. Christ est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. L'apôtre, le même apôtre, lorsqu'il écrit à Tite, il lui dit ceci, « Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. » Alléluia. Racheter comment? Eh bien, en payant de sa propre vie. Il nous a libérés par le paiement d'une rançon. Voyez-vous? Et cette rançon-là, eh bien, c'est sa propre vie, mes amis. Nous avons été rachetés. Nous avons été libérés du jour du diable par la vie du Christ. Alléluia. Voilà pourquoi le même apôtre écrivant aux Corinthiens leur dira, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Christ. Alléluia. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Dans quel but? Dans le but de nous racheter de tout mal, de toute iniquité. Voyez-vous? Nous racheter de la puissance et du pouvoir du diable. En d'autres mots, avant de rencontrer le Seigneur, nous étions esclaves de Satan. Nous étions esclaves du monde. Nous étions esclaves du péché. Le péché nous conduisait tout droit vers la mort. Le diable, eh bien, nous étions à sa merci. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait de sa vie, de notre vie. Combien, mes amis, sont venus au Seigneur après avoir été détruits par le diable? Combien sont venus au Seigneur alors que leur vie n'était que du chiffon? Voyez-vous? Combien sont venus au Seigneur après avoir été détruits par l'alcool, par la drogue, par l'immoralité, par la sorcellerie, par l'occultisme, par toutes ces croyances athées ou autres? Combien, mes amis? Eh oui, le joug le plus terrible, c'est celui du diable. Mais le joug le plus extraordinaire, c'est celui du Seigneur. Car son joug est léger, alléluia, et doux, et ça vaut la peine, mes amis. Le Seigneur nous a rachetés, il nous a libérés en payant de sa propre vie, en donnant sa vie, non pas au diable, voyez-vous, mais plutôt à Dieu. Car tout en étant pécheurs, eh bien, nous avons continué à être des créatures faites par notre Dieu. Pour nous racheter de toute iniquité, de tout mal, et puis ensuite, pour se faire un peuple, alléluia, un peuple qui lui appartienne, un peuple qui soit sa propriété privée, un peuple qui soit son bien propre, un peuple qui est donc son héritage. Et il ajoute, un peuple purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, le Seigneur a fait de nous sa propriété. C'est pour que nous puissions demeurer en lui. Et en demeurant en lui, nous puissions accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et en accomplissant ces bonnes œuvres, nous allons alors le servir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il y a une condition avant de servir le Seigneur. Il faut d'abord lui appartenir. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Les gens essayent de se lancer à travers toutes sortes de services envers Dieu sans avoir eu au préalable une expérience avec lui. Sans lui appartenir d'abord. Voyez-vous, on va dans des institutions bibliques pour étudier, sortir avec un diplôme, on va dans des facultés de théologie, on sort avec un diplôme, on va dans des ordres religieux, on va dans tel ou tel autre groupement religieux, dans le but de le servir, mon frère et ma sœur. Vous ne pouvez pas servir Dieu tant que vous ne lui appartenez pas. Et on n'appartient pas à Dieu lorsqu'on adhère à une religion, même dite chrétienne. On appartient à Dieu lorsqu'on le rencontre, Christ, lorsque Jésus vient dans notre vie, alléluia, là Dieu, eh bien, nous marque de son esprit. Là, il nous scelle de son esprit. Là, il met sa signature. Et c'est une signature inimitable, indélébile. Voyez-vous? Personne ne peut imiter la signature de Dieu. Aucune religion, aucun chef religieux, aucun prophète. La signature de Dieu est singulière. Elle est unique. C'est elle qui fait de nous sa propriété, sa possession. Donc, ça ne sert à rien, mon frère et ma sœur, de mener une vie monacale, une vie d'ermite, une vie d'ascèse végétarienne ou je ne sais pas quoi, pensant que de cette manière, tu sers Dieu. Commence d'abord par lui appartenir. Et vous ne pouvez pas lui appartenir simplement en adhérant à une religion dite chrétienne ou autre. Dieu n'est pas dans une religion. Christ n'a que faire de la religion, même si elle s'appelle chrétienne. Quand il a donné la mission à ses apôtres, il ne leur a pas confié une religion. Il ne leur a pas demandé d'aller dans le monde et d'apporter une nouvelle religion. À cette époque, eh bien, on trouvait toutes sortes de croyances, oui ou non? Aussi bien monothéistes que polythéistes. Les juifs étaient monothéistes, ils croyaient en un seul Dieu. Dans l'Empire romain, eh bien, chaque ville avait ses divinités. Chaque ville avait son panthéon. Chaque ville avait une divinité, entre guillemets, qui veillait sur la ville. C'est ainsi qu'à Éphèse, il y avait Artémis, considérée comme étant la gardienne la gardienne de l'Asie. Donc Dieu n'a pas donné une nouvelle religion aux apôtres. Il leur a confié un message, son évangile. Et l'évangile est plus qu'un message. L'évangile, mes amis, est plus qu'une religion. L'évangile, eh bien, est une personne qu'il faut recevoir afin d'être sauvé. Car la vie, le salut, se trouve dans une personne et non pas dans un rite. Or, aujourd'hui, on veut servir Dieu. Eh bien, ce désir-là est noble. Il n'y a pas de désir aussi noble que de servir son Créateur, oui ou non. Voyez ? C'est une très très bonne chose. Mais il faut encore savoir comment le servir. Quels sont les critères qu'il faut remplir avant de pouvoir le servir ? Paul est clair. Le Dieu à qui j'appartiens ensuite est que je sers. Nous devons appartenir à Dieu avant de pouvoir le servir. C'est la condition qu'il faut absolument remplir. Il y a des gens, hélas, de bonne volonté, des gens qui veulent servir le Seigneur et qui adhèrent à des communautés et qui se lancent dans des vies de mortification, qui s'imposent toutes sortes de disciplines, qui s'imposent toutes sortes de règles, quelquefois des règles très strictes au mépris de leur propre santé, des gens qui vont à l'encontre de choses établies dans le but de pouvoir servir Dieu. C'est une bonne chose d'avoir ce désir-là, mais il est important de savoir qu'on ne sert pas Dieu comme ça. On se lève le matin, on regarde une église au coin de la rue, on y va, on dit, voilà, je viens servir Dieu. Ou alors, on va faire des études bibliques, des études de théologie ou de philologie biblique. Et puis voilà, au terme de ces études, on sort avec un diplôme. On dit, ça y est, voilà, maintenant je vais servir le Seigneur, je vais m'habiller d'une certaine manière. Je vais désormais, eh bien, tourner le dos à toutes les couleurs et ne m'habiller qu'en jaune. Enfin, je parle du jaune parce qu'il est là. Ça peut être aussi le mauve, hein. Ne prenez pas ça mal, vous qui êtes en jaune. Nous devons d'abord appartenir avant de servir. Le Dieu à qui j'appartiens, quelle assurance, mes amis, dont cet homme fait preuve. Quelle assurance au milieu du désastre, au milieu de la détresse, au milieu, mes amis, de la désespérance, au milieu des cris de gens qui n'attendaient plus que la mort. Il y a un homme qui se met debout. Il n'est pas mu par des ressorts religieux. Pas du tout, mes amis. Il est mu par la foi dans son Dieu. Il sait que celui qui lui était apparu 2 ans en arrière et qui lui avait dit qu'il faut qu'il aille lui rendre témoignage à Rome, celui-là, eh bien, se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Paul avait reçu une vision et cette vision s'est accomplie. Ce n'était pas des hallucinations, voyez-vous, ce n'était pas des délires. Mais le Seigneur s'était approché de lui, et le Seigneur l'avait rassuré. Et l'ange est venu simplement confirmer ce que le Seigneur lui avait déjà donné comme parole, alléluia. Confirmer la vision. Il a fallu attendre 2 ans et quelques mois pour qu'enfin la parole, la vision que l'apôtre avait reçue, comme quoi il allait témoigner du Christ à Rome, il a fallu attendre ce temps-là pour qu'enfin cette vision se concrétise. Nous, aujourd'hui, nous voulons que tout arrive le même jour. Ouais. On a reçu une prophétie, on attend que demain ça s'accomplisse. Alors certains aventuriers, certains troubadours de la parole de Dieu l'ont très bien compris. Alors ils essaient un tout petit peu de manipuler les gens en disant, allez donner l'offrande et puis la prophétie va s'accomplir. Accompagnez ceci de l'argent et vous allez voir, dans une semaine, il y en a même qui prophétisent, hein, dans 10 jours. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de reproduire des choses comme ça. Vous lisez dans Exode 20, les 10 commandements, le chiffre 10 s'impose en vous. Et puis vous donnez, il a dit, voilà, Dieu a dit dans 10 jours. Nous devons faire attention. Le moi est très subtil. Il est très sournois. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Vous savez ça? Il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons qui sont simplement causés par le fait que nous avons trop confiance dans notre moi, qui dans la plupart des cas est trop surdimensionné. Trop souvent, nous sommes naïfs. Et un des problèmes chez nous, ici au Congo, c'est la naïveté et la crédulité. Ah, c'est un prophète, il a dit, je dois obéir. Tu ne dois pas obéir de manière aveugle. Oui ou non? C'est ton droit le plus légitime de rejeter cette prophétie. Ou d'abord de réfléchir, de voir à la lumière et à l'aune de la parole de Dieu si cette prophétie est vraiment biblique. Mais aujourd'hui, eh bien, les gens sont étant remplis de toutes sortes de cupidités et de convoitises, la plupart de ces soi-disant prophéties, eh bien, simplement, ce sont des paroles qui vont les titiller, qui vont quelque part les conforter dans leur besoin de ceci ou de cela. Appartenir avant de... Voilà la condition, mes amis. Nous appartenons au Seigneur. Et tant que nous lui appartenons, mes amis, quelle que soit la nature, quelle que soit l'intensité de la tempête, cela ne devrait pas être un sujet d'épouvante pour nous. Au contraire, nous devrions considérer cela comme une occasion d'expérimenter l'omnipotence de notre Dieu. D'expérimenter le fait que le Seigneur n'a pas changé. Ce qu'il a été dans le passé, eh bien, il est encore aujourd'hui. Sa puissance qui s'est manifestée là, sur la mer des Jonques ou la mer Rouge, au point de frayer un chemin à Israël, cette même puissance est à l'œuvre aujourd'hui. Le monde évolue, la terre tourne depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années sur elle-même, autour du soleil, voyez-vous, mais Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Donc, appartenir avant de servir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il déclare? Le Dieu à qui j'appartiens, que je sers. Donc, nous devons appartenir, oui ou non, pour avant de servir. Mais nous devons appartenir pour servir. Alléluia. S'il a fait de nous sa possession, s'il a fait de nous son héritage, mon frère et ma sœur, c'est pour que nous puissions le servir, gloire à Dieu. Nous devons le servir, lui, notre Dieu. Il a tout fait. Il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a donné des moyens. Tout ce que nous avons devrait être mis au service du Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie sur cette terre que celle que nous expérimentons lorsque nous mettons au service du Seigneur les dons qu'il nous a faits, les cadeaux qu'il nous a donnés, les talents dont il nous a dotés. Alléluia. Ceci est extraordinaire. Les dons, les talents, ce n'est pas pour nous mettre en valeur. Voyez-vous? Les dons, les talents devraient et doivent être utilisés pour la seule gloire de Dieu et pour l'avancement de ton œuvre, de son œuvre. Servir, c'est quoi? C'est s'acquitter de certains devoirs. Nous avons des devoirs vis-à-vis du Seigneur. C'est comme aujourd'hui, dans notre monde, on parle plus de droits de l'homme. C'est vrai. Même les voleurs ici défendent leurs droits. C'est incroyable. On ne regarde qu'aux droits, c'est bien. On devrait regarder aussi aux devoirs. Non seulement nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Des devoirs envers notre Créateur. Nous avons des droits en Christ, alléluia. Nous sommes ses enfants. En Christ, eh bien, nous sommes à l'abri des traits enflammés du diable. En Christ, nos vies sont cachées en Christ. Nous avons tant de droits en Christ. Nous avons aussi tant de droits en tant que citoyens congolais. Tant de droits, oui ou non. En tant que citoyens de tel ou tel autre pays. Mais aussi, nous avons des devoirs. Voyez-vous, nous ne devrions pas simplement regarder aux droits de l'homme. Il y a beaucoup d'activistes de droits de l'homme, c'est très bien. Nous devrions aussi avoir des activistes de devoirs de l'homme. Ah oui, de devoirs de l'homme. Alors, nos frères avocats, organisez-vous défendait les devoirs du citoyen. Avec Dieu, nous avons des devoirs vis-à-vis de lui. Les pays qui avancent sont les pays non seulement qui mettent beaucoup d'accent sur le droit de l'homme, mais également sur le devoir de l'homme. Alléluia. L'homme doit payer ses impôts. Ah, il n'y a qu'un seul qui a dit amen. Voyez. Nous avons des droits, certes, mais nous avons aussi des devoirs. Alors ne menons pas une vie déséquilibrée, où tous nos deux pieds sont dans le paquet du droit de l'homme. Non, nous n'avons deux pieds, non? Un pied dans ce package-là, dans le droit, dans nos droits, nous le réclamons avec véhémence, avec force, mais en même temps, nos devoirs. Et comme ça, nous pouvons avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas voler, ça tourne mal. Le gars chez qui tu es allé cambrioler, ne connaît rien de Dieu. Il a passé toute la nuit à se remplir d'alcool. Il est rentré à 4 heures du matin, il somnolait. Quand toi tu rentres, il se réveille. Il te prend pour une chèvre ou un lapin. Voilà. Il t'assomme. Tu arrives quand même à t'échapper. Le lundi dit, non, droit de l'homme. On m'a blessé. Ouais. Mais ton devoir aussi, c'est de respecter le bien de l'autre. Oui. Donc, nous devons avancer en mettant l'accent sur les droits de l'homme, mais aussi sur les devoirs de l'homme. Alléluia. Et nos sociétés occidentales avancent parce qu'il n'y a pas que le droit, il y a aussi le devoir. Le devoir de servir la patrie, d'aimer la patrie, de défendre la patrie à tout prix. Voyez-vous? Ça, c'est aussi un devoir, non? Donc, nous appartenons pour servir. Nous ne pouvons servir si nous ne réalisons pas que nous avons des devoirs vis-à-vis du Seigneur. Nous avons des charges à accomplir, alléluia, en tant que serviteurs de Dieu. Prenez le mot serviteur dans son sens le plus large et non pas restreint. C'est-à-dire serviteur qu'uniquement ceux qui prêchent ou ceux qui ont reçu un ministère quelconque, d'apôtre, d'évangéliste, de docteur ou de pasteur, pas du tout. Serviteur en tant qu'enfant de Dieu, appelé à le servir d'une manière ou d'une autre. Servir, c'est travailler, alléluia. C'est travailler pour celui qui nous a rachetés, celui qui a fait de nous sa possession, son héritage. Servir, c'est aussi se soumettre à lui. Alléluia. Que celui qui veut me servir prenne sa croix et marche derrière moi. Voilà l'appel du Seigneur à tout serviteur. C'est de prendre sa croix et c'est de marcher à sa suite. Marcher derrière, en ayant le regard fixé sur lui et sur lui seul. Gloire au Seigneur. Le servir reste, mon frère et ma sœur, un privilège extraordinaire. Vous savez que nous pouvons et nous sommes appelés à servir nos pays. Et ceci est un devoir noble, oui ou non? Nous devrions et nous devons être des serviteurs de la République. Des serviteurs pour ceux qui sont dans des royautés de leur royaume. C'est très bien. Mais le service le plus noble, aux conséquences éternelles, ce service, c'est le service envers notre Seigneur. Nous pouvons servir l'État. Et puis un jour nous en aller, et pour nous remercier, l'État peut par exemple décider à ce que le jour de notre mort, eh bien, qu'il y ait, que ce soit un jour férié, on peut ériger un monument, une statue à notre gloire, c'est bien. Les gens regarderont cela dans 20 ans, dans 40 ans, dans un siècle, pourront encore se souvenir en disant, oui, ça c'est le héros de l'indépendance congolaise, c'est très bien, mes amis. C'est très bien, et je vous encourage à servir le pays dans lequel vous vivez, mais n'oubliez jamais que le service le plus noble, aux conséquences éternelles, c'est le service envers le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous le servons, la récompense est éternelle. Gloire à Dieu. Nous serons avec lui pour l'éternité. Il nous donnera sa couronne. Il nous partagera son éternité. Gloire au Seigneur. Et enfin, Et enfin, pour aller terminer, c'est que Paul déclare aussi, non seulement qu'il appartient à Dieu, non seulement qu'il le sert, mais il dit avec certitude, j'ai cette confiance en Dieu, s'adressant à tous ces gens qui étaient là dans la détresse, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mes amis, quelle confiance dans la parole du Seigneur. Quelle confiance en Dieu lui-même. Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. S'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, eh bien, c'est renier sa parole, c'est mentir. Il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et par conséquent, il ne peut pas mentir. De sa bouche, aucun mensonge n'est sorti. Au jour de sa chair, de sa bouche, aucun mensonge ne sortira, mais alors qu'il nous parle par son Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. Nous devons croire que tout ce que Dieu dit est vrai. Même si, a priori, ça nous met en porte-à-faux avec nos convictions philosophiques. Même si ça nous met en porte-à-faux avec certaines de nos croyances ancestrales, privilégions toujours la parole de Dieu. Voyez-vous? Car la vérité finit toujours par triompher. On peut maintenir le genre dans le mensonge. Mais tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Alléluia. Tôt ou tard, le mensonge disparaîtra. C'est le sort du mensonge. Le mensonge est appelé à disparaître. Pour le moment, ben, il est présent. Pourquoi? Parce que le monde entier gît dans le malin. Et le malin, le diable, nous dit la parole, est le père du... Donc il n'est pas étonnant que le mensonge soit autour de nous. Que des gens mentent comme ils respirent. Voyez-vous? C'est une école, on ne termine jamais ses études. L'école du mensonge. La seule manière de tourner le dos, de quitter cette faculté-là, c'est de se tourner vers la vérité. Alléluia. Et plus vous rapprocherez de la vérité, plus le mensonge s'éloignera de vous. Mais cela ne veut pas dire qu'il disparaîtra. Il rôdera toujours. L'ennemi, le père du mensonge sera toujours aux aguets. Voyez. Mais Christ l'a vaincu. Alléluia. Donc, mes amis, croyons en Dieu. Si Dieu t'a parlé, eh bien, défie l'ennemi en lui disant, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. S'il t'a donné une promesse, s'il t'a donné une vision et que tu es sûr que cela vient de lui, eh bien, n'hésite pas à le proclamer. Il en sera comme il m'a été dit. Car Dieu ne peut pas se tromper. Il avait dit à Paul, tu iras à Rome pour rendre témoignage en moi. Eh bien, l'ennemi a tout fait. Mes amis, la nature a tout fait. Mais la nature n'a pas empêché Paul d'arriver à Rome. Les hommes ont tout fait. Ils n'ont pas empêché Paul d'arriver à Rome. Pourquoi? Parce que celui qui lui avait donné la parole se tient derrière elle pour l'accomplir. Et lui ne dépend pas des circonstances, hein. Qu'il soit nuit, qu'il fasse jour, sa parole est. Alléluia. Où qu'on soit, sa parole est. Alors restons attachés à cette parole. C'est la seule manière où nous pourrions non seulement faire face aux tempêtes de la vie, mais aussi les surmonter, mais aussi triompher de ces tempêtes. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, qui passe par des moments difficiles, ta barque est sérieusement ballottée. Je voudrais demander à chacun de nous d'incliner la tête dans la prière. Ta barque est ballottée. Tu es rempli d'incertitudes. Tu ne sais pas comment cela va se terminer. Il y a de plus en plus de houles qui te menacent. Tu te dis, mais si ça continue comme ça, ça va être la fin pour moi. Eh bien, au lieu de regarder tous ces flots de la mer qui s'abattent contre ta barque, qui font tanguer ta barque, eh bien, regarde dans celui à qui tu as confié ta vie. Regarde dans celui-là. Lui n'est pas du tout inquiété par la tempête. Lui ne tangue jamais sous la pression de tel ou tel autre ouragan. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, prends courage, mon frère et ma sœur. Je vais prier pour toi. Mais pour toi aussi qui nous suis, à partir de la télé. Incline ta tête. Je vais prier pour toi aussi, afin que le Seigneur puisse te visiter puissamment. S'il t'avait donné une promesse, eh bien que tu puisses t'accrocher à cette promesse en proclamant, en confessant qu'il en sera comme il en a été question. Il en sera comme Dieu l'a dit. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que nous avons de t'appartenir, la grâce que nous avons de te servir, la grâce que nous avons d'avoir ta parole, à partir de laquelle, Seigneur, nous pouvons réagir par rapport aux différentes tempêtes qui soufflent dans nos vies. Tu vois tous ceux, oh Dieu, dont la barque est sérieusement ballottée, ceux dont la barque conjugale risque, Seigneur, de s'écraser sous la pression de cette tempête. Oh, s'il te plaît, pose ta main et arrête cette tempête destructrice. Ceux, oh Dieu, dont la barque professionnelle est de plus en plus ballottée par toutes sortes de vents d'incertitude, mets la paix dans le cœur. Amen. Tes enfants à voir tes yeux fixés sur toi. Oh, merci Jésus. Avec toi, tout est possible. Tu es celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Dis seulement un mot et la tempête s'arrêtera. Dis seulement un mot et l'ouragan disparaîtra. Dis seulement un mot et cette tornade qui est en train de souffler, qui a déjà emporté une partie de ce qui nous appartient, dis seulement un mot et cette tornade s'arrêtera dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Renouvelle notre confiance en toi et donne-nous de rester attachés à toi. Bénissons ton nom pour cette grâce de croire en toi, pour ce privilège d'avoir foi en toi, pour ce privilège, Seigneur, de marcher, non pas par la vue, mais par la foi, en nous appuyant sur toi et sur toi seul. Merci Jésus. Merci également de poser ta main sur ces services des offrandes et des dîmes. C'est une occasion pour nous, Seigneur, de t'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, pour le travail, pour les affaires que nous avons, ô Dieu, pour la source, Seigneur, qui nous permet de nouer le debout du mois, grâce à toi, la bonne santé que tu nous donnes, grâce à toi qui nous a ouvert un jour cette porte du travail, cette porte, Seigneur, de la responsabilité, quelle qu'elle soit, grâce à toi, et en retour, nous voulons te donner, Seigneur, cette offrande ou cette dîme, ô Dieu, signe de notre amour, de notre reconnaissance vis-à-vis de toi. Merci Jésus. Sois loué, sois béni. En ton nom nous avons prié. Amen.